Certains cerveaux s'emballent, certaines émotions débordent, et certains corps s'épuisent à tout contenir. Audrey Kalvikowski propose des accompagnements sur mesure pour les hypersensibles, HPI et TDAH, qui veulent s'aligner sans s'abîmer. Sensation, ouverture, intuition, trois étapes clés de sa méthode pour transformer l'intensité émotionnelle et l'ébullition mentale en intuition actionnable. Partage de femmes, c'est une femme et des partages individuels et de groupe, ainsi que des ateliers et des séjours dans les Pyrénées. Parce que nos émotions nous donnent des ailes, retrouvez Audrey sur Instagram, partage de femmes 64.
Envie de doper ton cerveau sans y laisser ta peau?
Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois!
Ben, je me vois.
Ah, tu te vois!
Envie de booster ton quotidien? Tu es au bon endroit! Bienvenue dans DTC, l'émission qui remue tes méninges et stimule tes cellules.
Tu veux que je te dise ce que je vois à moi? Un type fier! Un type fort! Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds!
Le dimanche à 20h30 sur Pontac Radio, tu dynamises ton passage à l'action.
Tu vois tout ça, toi?
Yeah, man!
Yeah, man! Bonsoir à tous! Béarnais, Béarnais, de retour dans DTC! Et ce soir avec moi, Julien!
Fidèle au poste!
Fidèle au poste!
Au sens propre comme au sens figuré! Bonsoir à tous, bonsoir André!
J'étais en train d'écouter le jingle, je sais pas si vous l'avez entendu, mais un type fort, un type fort! Je me dis, oui, on peut être hypersensible et fort!
Ouais, on peut!
Du coup, ça me faisait penser à ça. On a parlé, du coup, il y a deux semaines, notamment, des biais cognitifs. Et pour aller un petit peu plus loin, dans les prochaines semaines, on va explorer quelques syndrome très courant, et ce soir c'est celui du perfectionnisme. Comment faire de son perfectionnisme une qualité? Pourquoi j'ai choisi ce thème?
Pourquoi t'as choisi ce thème?
Ouais, et parce que
comme ça, bien levé dans le studio, qui est concerné? Bon, on est deux, il y a deux mains levées.
Et bien souvent quand il est mal mené, moi je trouve qu'il est mal mené depuis quelques années dans le développement personnel, et du coup il insiste à lâcher prise. Il insiste sur le lâcher prise, mais il peut prendre une forme de lâcher les responsabilités et l'engagement plutôt que d'aboutir à un réel lâcher prise intérieur. En tout cas, moi, c'est ce que je constate sur le terrain, et ça me fait bouillir. Alors, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on redonne un petit peu de la vigueur à ce syndrome pour lui donner un élan et de l'envergure, car il y a aussi des bons côtés. Et de suite, on va aller dans ton cerveau comprendre le syndrome du perfectionnisme.
Tout de suite, on se rend DTC dans ton cerveau.
J'aimerais bien nager tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça?
On explore ensemble l'océan de tes pensées dans DTC.
Qu'est-ce que t'as?
En exclusivité sur Pontac Radio.
Arrête de me coller aux nageoires!
Alors, je me suis intéressée à ce que la science nous dit, et notamment les neurosciences, mon petit dada, un petit big up à mon prof de neurosciences de la fac. Le perfectionnisme est souvent lié à une hyperactivité du cortex préfrontal. Attention, quand je parle d'hyperactivité cérébrale, je ne parle pas de l'hyperactivité en tant que telle dans le syndrome du trouble déficit de l'attention, qui est très particulier. Là, je parle vraiment d'une excitabilité au niveau du cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie qui résonne, vous le savez, à force de m'entendre le dire dans l'émission, cette zone qui planifie et qui analyse. Elle sur-sollicite le système limbique, donc c'est-à-dire celle qui gère les émotions, dont l'amygdale, dont je parle aussi souvent dans cette émission, et augmente le stress, la peur de l'erreur, l'autocritique. Donc, en neurosciences, finalement, le perfectionnisme égale augmentation du stress, de la peur de l'erreur et de l'autocritique. En psychologie, des études montrent que les perfectionnistes ont tendance à procrastiner, car la peur de l'échec est plus forte que l'envie de réaliser, de se réaliser. Mais paradoxalement, quand on canalise cette énergie, ça peut produire un travail exceptionnel ou un travail au sens habitude de vie ou des actions exceptionnelles. Et dans la santé mentale, un perfectionnisme mal géré peut provoquer anxiété, insomnie ou burn-out. Mais bien orienté, c'est un moteur de discipline, de précision et de succès durable. Du coup, le perfectionnisme, c'est une voix intérieure qui souffle. Ça doit être parfait, sinon ce n'est pas assez bien. Je vais leur prouver que je suis capable d'eux. Ça doit être comme ça et pas autrement. C'est vraiment un mélange de standards ultra élevés, de peur de l'échec et d'autocritique constante. Attention, il ne s'agit pas juste de vouloir bien faire. C'est un vrai syndrome quand ça commence à peser sur nos choix, notre énergie et notre santé. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Imagine que quelqu'un t'écrit dans un mail important et enfin, tu veux écrire un mail important et au lieu de l'envoyer après relecture, il le relit 10 fois, change chaque mot, vérifie chaque détail et finit par se dire « pas encore assez parfait, je le ferai demain ». Résultat, le message n'est jamais envoyé à temps, la communication bloque et le stress grimpe. Moi, personnellement, ça pouvait m'arriver de bosser 5-6 heures sur un cours de 2 heures de PS quand j'étais prof et tout envoyer bouler au bout de 6 heures. Bah, et finalement, arriver avec possiblement rien à mon cours en plus. Donc ça, c'est vraiment un syndrome qui peut peser sur vos épaules. Nos cerveaux sont programmés pour nous maintenir en vie et non pour être productifs. Et le perfectionnisme n'est donc pas un ennemi, mais c'est un potentiel souvent mal exploité. Et notre cerveau est conçu pour viser l'excellence malgré tout, puisqu'on le disait il y a 15 jours. Mais il faut canaliser cette énergie au service de ce que vous voulez créer et de ce que vous voulez actionner dans votre quotidien. J'avais envie de distinguer exigence et perfectionnisme. L'exigence, c'est ce qu'on pourrait appeler la version saine du perfectionnisme. C'est quand tu veux bien faire, progresser et atteindre tes objectifs. Les erreurs ne te paralysent pas. Tu les acceptes comme des étapes d'apprentissage et même si le résultat n'est pas parfait, bah, tu peux être satisfait de ce que tu as accompli. L'exigence, elle te fait avancer sans te casser, elle te motive. Mmh. Elle te fait avancer vraiment sans nuire à ta santé. Le perfectionnisme, lui, il a vraiment un côté beaucoup plus lourd. Tu ne vas pas juste viser la qualité, tu vas chercher le côté impeccable du truc pour te sentir valable. En fait, il y a une notion de valeur derrière le perfectionnisme. Les erreurs, elles te mettent en stress, la frustration et parfois la culpabilité. Et tu repousses la fin des projets parce que ça n'est jamais assez, en fait. Et tu continues à refaire. Tu veux tout contrôler, même ce qui n'est pas sous ton influence. Et c'est ce qui fait que ton potentiel devient parfois un piège plutôt qu'un moteur. Voilà. Mais est-ce que tu vois la différence, toi, Julien?
Moi, je pensais il y a encore 7 minutes que j'étais perfectionniste. En fait, je suis juste exigeant.
Exactement. Et l'exigence, ça te fait grandir. Le perfectionniste, ça peut vraiment te bloquer. Et l'idéologie du parfait te fait tourner en rond dans un monde impossible. Clairement, c'est la différence entre les trois. De suite, on va aller dans ton corps. L'impact de ce syndrome sur ton corps.
Dans DTC, on ouvre aussi la porte à ton physique.
La porte à cette idée, Mickey !
Place à la session Dans ton corps sur Pontac Radio. Pontac Radio.
Et pour parler de l'impact sur ton corps, on va imaginer que Clara est cadre dans une agence dynamique, une espèce de start-up, on en a par ici quand même. Elle doit rendre un rapport important et on va suivre un petit peu ses réactions selon deux chemins. Le perfectionnisme, que je vais appeler néfaste pour ce soir, et l'exigence que je vais dire saine pour ce soir. Alors, l'engrenage du perfectionnisme néfaste. Eh bien, la suranticipation. Clara se met la pression avant même de commencer, son cerveau commence à imaginer toutes les erreurs possibles, et son corps ressent déjà de la tension, épaules crispées, rythme cardiaque qui s'accélère, elle commence à cogiter le soir. Du coup, deuxième étape, la rumination. Au lieu de se mettre à écrire, elle tourne en boucle sur la structure idéale, le mot parfait, l'esprit reste bloqué, le stress augmente, le cortisol monte et le sommeil peut en pâtir, voire même des discussions avec les copines. Ça y est, elle est encore en train de penser au boulot, à la machine à café. La procrastination déguisée. Comme rien n'est assez parfait, elle repousse l'envoi. La deadline approche, la pression devient écrasante, le corps répond par fatigue, tension musculaire, maux de tête, voire migraine. Elle fait plein d'autres actions. Elle remplit d'autres dossiers, répond à tous ses mails. Bref, elle fait tout un tas de tâches autour, mais pas vraiment celles qu'elle doit faire. Et dernière étape, la surcharge émotionnelle. Quand elle finit par travailler, c'est sous tension maximale, c'est dans l'urgence. Et le perfectionnisme a transformé ce qui devait être un projet stimulant en expérience clairement anxiogène. Donc on a un démarrage d'anxiété. Et du coup, épuisement, insomnie, sentiment d'échec, même si le rapport est objectivement excellent, voire
ça,
très bon.
Ça, c'est si on est perfectionniste. Donc
exactement.
Donc le côté malsain, entre guillemets.
Oui, et si on va maintenant voir le chemin de l'exigence plutôt saine. on va avoir une préparation consciente. Ben, Clara, elle planifie son rapport. Elle se fixe des objectifs réalistes. Exemple, étape 1, 2, 3, plan A, B, C, vous voyez le truc. Elle accepte qu'il y aura des imperfections. Hein, voilà, ben, il y aura peut-être des fautes, peut-être une syntaxe pas très pointue. Son corps reste détendu, sa respiration, elle est stable. Et du coup, elle va pouvoir avoir une action dite guidée par la progression. Elle avance par étapes, elle relie, elle ajuste au fur et à mesure. Le stress est modéré, motivant plutôt que paralysant. Elle ne reste pas paralysée face à la tâche, elle est plutôt proactive. Elle va être dans l'acceptation de l'imperfection. Quand elle termine, elle relie une dernière fois. Elle envoie le rapport sans se poser un milliard de questions. Elle sait que c'est de qualité, même si tout n'est pas parfait, et elle sera ouverte à la critique du coup. Hein. Sa satisfaction et fierté remplacent la tension et la culpabilité. Elle n'a pas crainte de la critique qui peut arriver, au contraire, elle est prête à la recevoir. Et il y a des bénéfices corporels et mentaux à ça. Son corps va relâcher la tension, le rythme cardiaque se normalise, le sommeil est préservé et elle se sent énergisée et confiante pour le projet suivant. Du coup, le perfectionnisme, quand il devient néfaste, il transforme notre corps en champ de bataille. C'est le combat, c'est le mode combat. Et l'exigence plutôt dite saine, elle te fait avancer avec une puissance et une légèreté. Même projet, même talent, deux expériences totalement différentes pour ton corps et ton esprit. Moi, personnellement, mon histoire personnelle est le reflet d'un syndrome perfectionniste qui peut apparaître malgré des années de très bonne utilisation et de manœuvre de ses exigences. Et j'y reviendrai dans un peu plus tard parce que en fait, ça peut surgir à différents moments dans votre vie et on verra lesquels. De suite, on va aller dans vos cellules, on va aller voir les effets cachés du perfectionnisme cette fois-ci.
Parfois, agir, c'est difficile. Et tu ne te reconnais pas.
Vous me reconnaissez ?
Oh, ne vous reconnaissez pas ?
DTC, c'est aussi dans tes cellules. Et tes ancêtres y sont peut-être pour quelque chose. DTC, en exclusivité sur Pontac Radio, avec Audrey Kalvikowski.
Alors, on va parler des effets positifs d'un perfectionnisme engagé. Premier effet positif, la qualité et la précision accrue. Quand le perfectionnisme est conscient, il pousse à soigner les détails sans être paralysant. Nos actions gagnent en précision et en valeur. Votre cerveau devient un vrai scanner de qualité. La discipline et la constance. Oui, le perfectionnisme vous donne la discipline nécessaire pour maintenir des routines, progresser chaque jour et atteindre des objectifs avec régularité. Et les neurosciences montrent que la répétition consciente renforce les circuits neuronaux de la compétence. Répéter, c'est stabiliser. Je ne répéterai jamais assez. Répéter, c'est stabiliser. Capacité à anticiper et planifier grâce à votre perfectionnisme, ça peut vraiment vous rendre attentif aux risques et aux erreurs potentielles. Et cette capacité à anticiper augmente votre efficacité et ça limite les surprises dites négatives. Votre cerveau, notamment la partie qui raisonne, est stimulé positivement pour un contrôle stratégique plutôt que paralysant. La résilience et la gestion des conflits. Quand le perfectionnisme est utilisé à bon escient, il vous enseigne à gérer les obstacles avec méthode. Les échecs deviennent des signaux pour améliorer et pas pour vous abattre. Résultat, plus de confiance pour affronter les situations dites complexes. Plus de créativité. Et oui, étonnamment, le perfectionnisme peut booster la créativité en cherchant à atteindre des standards dits élevés. Vous explorez plus de solutions, vous innovez, vous repoussez vos limites tout en préservant votre corps. Votre cerveau associe exigence et imagination. La maîtrise de soi et la gestion émotionnelle grâce à votre perfectionnisme conscient vous implique de reconnaître vos émotions avant qu'elles ne deviennent paralysantes. Vous allez mettre de la conscience sur vos peurs. Vous apprenez à réguler du coup le stress et la frustration et votre système limbique devient un allié plutôt qu'un saboteur. Et on verra l'auto-sabotage et le syndrome de l'imposteur dans la prochaine émission. Rendez-vous dans 15 jours pour ce syndrome. La fierté et la satisfaction personnelle. Quand vous atteignez un objectif avec un engagement et une conscience, le plaisir est décuplé. C'est un orgasme, l'histoire. Voilà, vous libérez de la dopamine, de l'endorphine. C'est une récompense et une motivation durable. Mais j'attire votre attention sur l'importance d'un pourquoi interne et externe à votre motivation. Sans ça, l'énergie redescend comme un soufflet. On a déjà parlé ici de motivation intrinsèque et extrinsèque. Il faut les deux pour rester motivé. L'influence, bien sûr, et le leadership positif. Moi, j'adore ces notions-là. Les perfectionnistes engagés deviennent des modèles. Par l'exigence équilibrée, vous inspirez confiance et respect et vous allez pouvoir guider les autres sans les écraser. C'est un leadership positif et on en a besoin, mon Dieu, qu'on en a besoin. La capacité à apprendre et à progresser progresser rapidement. Et oui, vous transformez les erreurs en apprentissage actif et vous analysez, vous ajustez, vous améliorez à chaque étape, ce qui accélère votre développement personnel et professionnel. Voilà, que t'en penses toi, du coup ?
Je pense que c'est un chouette programme.
Bon. Du coup, je vais quand même utiliser une métaphore. Quand il est bien canalisé, le perfectionnisme, c'est un sac à dos qui contient tout ton nécessaire sans être un poids inutile qui te freine dans tes avancées. C'est un moteur silencieux dans tes cellules. Il sculpte ta discipline, ta créativité, ton corps et ton esprit. Et il transforme chaque détail, chaque effort en levier de ton excellence. Et on va voir qu'il y a des illusions au perfectionnisme. De suite, on va dans tes croyances.
Ils ne veulent pas qu'on devienne des héroïnes. Ils ne veulent pas qu'on devienne quelqu'un.
Dans DTC, nous, oui. Et c'est en faisant le tour de tes croyances limitantes qu'il est possible de faire tomber les chaînes.
Get back on your life, bordel de shit!
Le perfectionnisme, même lorsqu'il est bien utilisé, n'est pas un super pouvoir infaillible et il peut basculer et devenir un vrai problème. Il peut se transformer en un piège silencieux. Mais comment et pourquoi et surtout comment le repérer avant qu'il ne prenne le contrôle. Je vous assure que ça peut devenir très douloureux dans nos corps. Personnellement, j'en ai fait les frais et ça commence en général par un stress chronique ou un événement déclencheur. C'est-à-dire que même si vous êtes au clair avec des exigences, vous avez des exigences, ça fonctionne, etc. Sur la longueur, le stress peut s'installer ou un événement déclencheur, c'est-à-dire même si une pression soudaine, par exemple, qui peut venir saturer votre système, un énorme projet qui arrive, une situation familiale difficile, un changement brutal dans votre vie. Ici, par exemple, on a refait les studios. Je peux vous dire que l'équipe était sous stress, mais un bon stress parce qu'il y avait un engouement. Mais on aurait pu tomber dans un stress chronique si on n'avait pas pris soin de toute l'équipe. Indicateur pour... repérer ce stress chronique, vous vous sentez constamment tendu, vous dormez mal, vous avez des maux de tête, des tensions musculaires, chaque petite erreur devient catastrophique. Genre, une goutte d'eau fait déborder le vase à chaque fois. Vous passez véritablement en mode survie, l'autocritique explose et la tolérance à l'erreur chute. En gros, la moindre erreur, vous vous sentez vraiment sans dessous. La fatigue et l'épuisement. Après des années à performer sur un niveau d'exigence élevé, ça peut peser. Et du coup, vos ressources cognitives et émotionnelles diminuent. Personnellement, c'est ce qui s'est passé après des années d'études. Souvent, ça arrive chez les jeunes qui rentrent dans la vie active. C'est-à-dire qu'il y a eu 5-6 ans d'études, on rentre dans la vie active et là, au bout de 2 ans, ça explose. On a de plus en plus de jeunes qui tombent dans cette fatigue et dans cet épuisement. Et voilà, et du coup, les standards que vous appliquiez avant... sont plus efficaces et ça devient paralysant, vous vous arrêtez. Donc, des indicateurs, vous procrastinez alors que vous voulez avancer, vous ruminez sans fin, vous ressentez une lassitude permanente et ça, y a plus rien qui vous stimule, tout est source de frustration et de stress. L'absence de pause ou de recul, même le perfectionniste le plus discipliné, il a besoin de respirer et de prendre du recul, sans cela, le syndrome s'installe. Un des indicateurs, vous avez du mal à déconnecter. Vous vérifiez encore et encore votre travail, vous ruminez sur des détails insignifiants, vous critiquez les autres pour leur imperfection. Et oui, vous devenez exigeant envers les autres, mais du coup...
Ça, c'est le risque.
Ah oui, vous devenez vous tombez dans la perfection de l'autre parce que vous-même, vous exigez ça de vous-même. Vous avez compris. Et chaque erreur vous touche plus que nécessaire. Et enfin, les croyances rigides et surtout l'auto-jugement intensifié. Avec le temps, votre perfectionnisme peut devenir une idéologie interne. Je dois toujours être parfait, sinon je ne vaux rien. Alors, vous ne vous dites pas, je dois toujours être parfait. Hein. Il faut aller le formaliser dans un discours plus minutieux
dans
que ça.
Dans le vôtre, quoi.
Oui, voilà, dans le vôtre. Mais en gros, ça veut dire ça. Vous vous sentez rarement satisfait de vos réussites, vous minimisez vos succès, vous comparez constamment votre travail à celui des autres. Chaque critique est vécue comme un jugement existentiel. Pire, vous anticipez la critique. À ça, vous vous autocritiquez par anticipation et vous supportez encore moins que l'autre vienne vous critiquer parce que du coup vous avez déjà pensé à la critique. Alors là c'est pour c'est l'avoir vécu, c'est insupportable.
Le pompon.
Ah oui, c'est le pompon. Mais du coup, on est dans ce syndrome. Du coup, ben voilà, le repérer grâce à vos sensations et vos comportements pour pouvoir diminuer les tensions physiques, les ruminations, la procrastination et l'autocritique excessif. Voilà. Donc l'erreur fatale du perfectionniste, c'est de vouloir supprimer le syndrome plutôt que de l'apprivoiser. Beaucoup pensent que le perfectionnisme néfaste doit disparaître complètement. C'est une mauvaise idée. Plus vous le combattez, plus vous lui donnez de l'énergie. Le vrai secret, c'est l'apprivoiser et le réorienter. Imaginez-le comme un moteur capricieux. Tu ne peux pas le jeter. Tu dois apprendre à l'utiliser à bon escient. Tu dois transformer ce trait un outil conscient qui te permet de garder du coup ta discipline, ta créativité, tes exigences, parce qu'on a besoin d'exigences pour plus de qualité, tout en évitant la rumination et l'épuisement. Voilà, donc ne cherchez pas à supprimer votre perfectionnisme, hein. Non, non, on va plutôt le guider, l'utiliser à bon escient. De suite, on va aller dans ton cucu. Comment faire du perfectionnisme un allié ?
Tu en as plein le cul ? Besoin d'une pause pour y voir plus clair ? Dans DTC, on pose ensemble nos derrières pour assurer nos arrières. Et c'est OK. DTC, c'est aussi dans ton cul.
Dans ton cul.
Et c'est en exclusivité sur Pontac Radio.
Alors, comment en faire un allié, maintenant qu'on a dit tout ça ? L'objectif de cette partie, c'est de célébrer le progrès. Pas la perfection en elle-même, mais transformer notre perfectionnisme en moteur. La première étape, c'est d'identifier le besoin derrière la perfection. Posez-vous la question, pourquoi ai-je ce besoin de tout faire parfaitement et je dirais de tout faire bien ? Parce que souvent on dit pas je fais ça parfaitement, on veut pas être parfait,
oui.
D'accord ? On le rejette même l'histoire. Plutôt que d'embrasser la perfection et de se dire ok, j'ai le droit d'être parfaite, d'être parfait, c'est plutôt, voilà, quel est le besoin, pourquoi j'ai ce besoin de tout faire bien ? Voilà. Souvent, c'est un besoin d'accomplissement, de contrôle ou de reconnaissance. Franchement, je trouve qu'on est une génération, on est dans un système à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt dans cette dimension de répondre à ce besoin d'accomplissement, en tout cas ici en Occident, il faut resituer dans le contexte. Quel est le bénéfice secondaire, c'est-à-dire celui qui est caché souvent, qui fait que j'agis ainsi ? Quelle est la valeur ou la part de moi qui a de la valeur à laquelle je tiens et que je cherche à protéger. Qu'est-ce que j'aime en moi qui fait que du coup je me protège par le fait de vouloir faire bien. Reconnaître ce besoin est la première étape pour le réorienter vers du constructif plutôt que de la culpabilité. Exemple, Julien se rend compte que son besoin de perfection dans la préparation des repas vient de son désir d'offrir de la sécurité et de la santé à ses enfants. Ça par exemple. Et du coup, forcément, on veut mettre de la qualité. Et juste le fait de le repérer, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. C'est juste que d'en avoir conscience, eh ben, ça diminue le stress en fait,
ouais.
Et la peur. Redéfinir les standards. Progrès plus important que la perfection. Remplacer la pensée. Tout doit être bien fait par chaque étape réalisée a son importance et elle compte. On va créer un critère concret de réussite. Faire la liste des moments ou des tâches où vous pouvez mesurer le progrès. Est-ce que c'est fait ou pas fait ? Plutôt que la perfection, est-ce que c'est bien ou mal ? Non. Est-ce que c'est vaut mieux fait que parfait ? Mais est-ce que c'est fait ou pas fait ? Déjà, c'est une première étape. Exemple, Marc se dit « Si les enfants ont passé un moment de qualité avec moi, c'est réussi, peu importe si la maison est en désordre. » Attention à définir qu'est-ce que vous entendez par moment de qualité. Un moment de qualité, c'est quoi pour vous ? Moi, des fois, un moment de qualité, c'est juste m'asseoir sur le canapé et regarder mes filles danser dans le salon. J'adore ce moment-là. Il ne se passe rien de spécial, mais c'est un moment de qualité.
Et là, la maison est en désordre.
Et clairement. système de micro-célébration. Chaque petit pas vers ton objectif ou une envie à réaliser est validé, applaudi et noté intérieurement. Le cerveau va du coup associer l'effort à la satisfaction et va générer de la motivation plutôt que l'effort associé à la critique et donc à la culpabilité. Exemple, après un repas réussi avec les enfants, même un petit repas tout simple, Julien y prend 30 secondes pour se féliciter intérieurement. Mission accomplie, je l'ai fait, j'ai réalisé un repas équilibré, varié. Allez, allez hop, demain on peut aller au McDo. Allez.
Au quick ou au KFC aussi,
voilà, voilà.
Ça marche.
Auto ou histoire sans fin après tout. Hein.
Oui, voilà. Monsieur Vagabond, on va les citer locaux. Vous avez raison, manger local.
Auto-questionnement constructif. Là, c'est l'étape où chaque fois que tu te sens frustré ou que ta pensée perfectionnisme surgit, demande-toi qu'est-ce que tu as accompli réellement ici. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi maintenant? Comment tu peux améliorer? Quel est le petit pas que tu peux faire juste après? Ce dialogue à l'intérieur, il va vraiment transformer l'autocritique en guide plutôt créatif, c'est-à-dire quand tu es proactif dans la création de ta pensée plutôt que de la subir. Je vais rappeler quand même l'importance de la frustration et je vais faire un pont avec une émission de conviction intime qu'on va animer très bientôt. C'est la frustration chez l'enfant. Non, elle est passée déjà.
Non, et donc, c'est samedi prochain.
Ben voilà.
Non.
Non, elle est passée.
Je sais plus quel jour je viens.
Elle est passée. Elle est en podcast. Donc on vous envoie sur le podcast sur la frustration chez l'enfant. Mais c'est important de ressentir la frustration parce que la frustration permet de générer de l'adaptation. Et on a besoin d'être des êtres qui s'adaptent à certaines situations. Et plus vous allez être frustré, plus vous allez développer votre capacité à vous adapter. La réflexion quotidienne, et je vous encourage, vous savez à quel point j'aime le journal des progrès, je vous en ai déjà parlé dans des TC, prendre un moment pour noter 3 accomplissements, même des tout petits, même mentalement si vous voulez, si vous n'avez pas le temps d'écrire, pas obligé vraiment d'écrire, mais 3 moments, 3 accomplissements dans votre journée, c'est faisable, ça prend 2 minutes en train de faire un manger, vous réfléchissez, c'est très facile à mettre en place et vraiment c'est un système d'autocompassion qui est important à développer, ça renforce l'habitude de reconnaître votre travail, vos actions, vos efforts et pas uniquement le résultat final. Ça va vraiment vous permettre de valoriser l'ensemble de vos progrès, de vos avancées plutôt que et le résultat plutôt que le résultat tout seul. Reconnaître son besoin d'accomplissement, ben, ça peut amener aussi des difficultés car je me perds dans mes notes. C'est important de reconnaître ce besoin d'accomplissement. C'est ma conclusion, en fait. Du coup, grâce à votre perfectionnisme que vous mettez au service du repère de vos besoins, des valeurs que vous accordez, eh bien, du coup, vous allez vraiment pouvoir vous accomplir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Ce soir, on a vu.
C'est très intéressant parce que du coup, on fait vraiment la différence, grâce à ce que tu es en train de nous dire, entre vraiment le perfectionnisme et l'exigence. Et je pense qu'on était très nombreux, je l'ai dit tout à l'heure, à mélanger ces deux termes-là. Et en fait, ça aide déjà à se poser les meilleures questions et savoir à peu près où on se situe entre les deux.
Ben, ravi que ça puisse t'éclairer autant. Et effectivement, moi, je pense que le perfectionnisme peut devenir un vrai allié s'il est bien mené et il peut être un moteur puissant et notamment à l'optimisme et à l'optimiste aussi d'ailleurs, mais il peut être un compagnon et silencieux parce que c'est avec soi-même finalement. Et voilà, l'idée, c'est plus de l'apprivoiser, de le canaliser. On a exploré du coup ensemble ce soir pour reprendre rapidement les étapes. On a été voir dans votre cerveau. On a vu que le perfectionnisme peut devenir paralysant si les croyances sont rigides, si le stress prend le dessus et le stress plutôt subi que choisi. Parce que le stress choisi, il en faut. On a vu, on a parlé de frustration, c'est ça aussi. Hein. Le corps qui parle à travers la fatigue, la tension, les insomnies, lorsque le syndrome devient trop lourd. Les cellules où le perfectionnisme, du coup, peut donner lieu à de la discipline, à de la créativité, à de la résilience, à de la fierté. Vos croyances aussi, avec ces illusions qu'il faut déconstruire pour transformer chaque pensée rigide en pensée constructive et intuitive. Et bien sûr, dans votre quotidien, avec des exemples concrets qu'on a donnés tout le long, qui ont appris à célébrer le progrès plutôt que la perfection et à réorienter votre énergie là où elle compte vraiment. Et le message clé de ce soir, c'est ne cherchez pas à supprimer votre perfectionnisme, vraiment, vraiment, mettez-le au service de votre excellence. Apprenez à reconnaître les déclencheurs, ajuster les standards, célébrer chaque progrès aussi et transformer chaque détail, chaque effort en levier pour votre réussite. Bref, le perfectionnisme, c'est loin d'être un frein. Moi, j'aime bien la phrase de Voltaire, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et oui. J'aime bien la tienne, mieux vaut fait que parfait. Tu le dis très souvent ici en équipe. Hein, elle ne s'est pas réveillée ce matin en disant ce soir je parle du perfectionnisme. Non, c'est des choses qu'elle nous dit régulièrement, Audrey, à la radio.
Oui, voilà. Parce que plus vous répétez, plus vous stabilisez, donc plus vous faites, même imparfaitement, vous progressez en fait et vous prenez confiance. On ne prend confiance. Souvent les gens disent, comment on fait pour prendre confiance en soi ? Passer à l'action. Vaut mieux fait que parfait. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour parler du syndrome de l'imposteur. Comment en faire un moteur et plus un frein du tout. Voilà. À dans 15 jours.
Prêt à attaquer la semaine du bon pied ?
Ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois toi. Alors regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois.
Tu en veux encore ? DTC sera bientôt de retour pour booster ton énergie et continuer d'avancer.
Je vois un type.
Fort ! Qui peut être très méchant quand il a la haine et qui accepte pas
qu'on lui marche sous les pieds.
En attendant, pour réécouter l'émission, direction le podcast sur pontacradio.fr. Vous écoutez Pontac Radio. Il est 21h. Jamais une radio ne vous a offert autant.